Bonjour et bienvenue sur Communautaire, la communauté des initiatives saines et éco-responsables. Je suis Pauline Ebel, entrepreneur à impact. Avec Communautaire, je vous propose de rencontrer ensemble des acteurs engagés pour la planète et pour la santé et de vous faire découvrir toutes les initiatives menées à titre entrepreneurial, individuel ou bénévole, visant à produire ou à consommer plus durablement. Belle écoute! Cet épisode vous est proposé en partenariat avec Ecosia, le moteur de recherche éco-responsable qui reverse 100% des bénéfices à l'Action pour le climat, dont 80% pour financer des projets de reforestation situés dans des zones critiques de biodiversité. Pourquoi vous parlez d'Ecosia ? Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Dans ce podcast, on parle d'initiatives qui contribuent à un monde meilleur. Donc si vous cherchez une idée de geste green toute simple à mettre en place et qui a un impact concret, pensez à Ecosia. Toutes les 45 recherches, c'est un arbre qui est planté. Allez simplement sur Ecosia, ecosia.org, et mettez-le en moteur de recherche favori ou installez-le sur votre smartphone. Et en plus, c'est gratuit. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Communautaire. Cet épisode est dédié à la logistique avec Boomerang, le colis réutilisable zéro déchet, fabriqué en France à partir de bâches publicitaires revalorisées. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Filler, le fondateur d'Ecopack Solutions. Bonjour Clément, tu vas bien ?
Bonjour, ça va, merci.
Alors aujourd'hui, nous allons parler d'upcycling, d'économie circulaire, de Made in France, mais aussi d'inclusion. Un épisode très riche donc. Allez, place aux présentations. Clément, peux-tu s'il te plaît te présenter ?
Oui, bien sûr. Du coup, j'ai 28 ans et je suis donc le fondateur d'Ecopack Solutions, une entreprise que j'ai décidé de créer à la sortie de mes études, il y a à peu près 2 ans et demi. Et donc voilà, aujourd'hui, l'entreprise compte 6 salariés et depuis peu, je me suis entouré de 2 nouveaux associés.
Waouh, super. Une belle équipe en si peu de temps. Quel était le déclic pour créer Ecopack Solutions ?
Bah en fait, au cours de mes études, j'effectuais mes études en alternance et à l'époque, je travaillais déjà dans le monde de l'emballage. Par contre, c'était une entreprise qui avait une vocation environnementale un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on fabriquait des emballages pour déchets radioactifs. Donc, c'était un sujet qui était très très intéressant, très challengeant, ces questions autour du démantèlement nucléaire. Par contre, voilà, à la fin de mon contrat d'alternance, mon entreprise m'a proposé un joli poste, une sorte de voie toute tracée à la fin des études. Mais malheureusement, voilà, je me reconnaissais pas dans mon travail au quotidien. Ce secteur d'activité, je pense en avoir fait le tour. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis dit, voilà, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? C'est le moment d'y réfléchir, c'est la fin de tes études. Est-ce que tu veux te lancer, on va dire, dans cette voie qui était toute tracée, sécuritaire, ou alors justement te lancer un défi en sortant de tes études pour avoir un petit peu plus d'impact et plus de sens au quotidien. Donc, moi, j'ai effectué le constat que sans doute des millions de Français ont fait du suremballage qui était lié autour du secteur du e-commerce. J'en avais marre de descendre en bas de chez moi, de voir ces poubelles qui débordaient de carton. Et donc, je me suis questionné un petit peu sur est-ce qu'il existait une alternative à ces packaging à usage unique. Et en fait, je suis tombé sur une entreprise finlandaise qui s'appelle Ripack, qui a développé depuis une dizaine d'années en Scandinavie un packaging réutilisable. Je suis tombé sur cette démarche, je me suis dit, mais c'est génial, c'est brillant. Pourquoi on n'a pas quelque chose de similaire qui existe en France ? Ça m'a aussi permis du coup d'approfondir un petit peu le sujet du colis réutilisable et je me suis rendu compte que finalement ce colis finlandais était certes très innovant mais que pour moi il y avait vraiment des pistes d'amélioration notamment au niveau des sources de fabrication, c'est-à-dire que ce colis est fabriqué à l'autre bout du monde en Chine. À l'époque, les colis étaient nettoyés et maintenus en Estonie, donc c'est-à-dire qu'un consommateur français qui aurait déposé son colis en boîte aux lettres, bah, le colis vide va repartir à l'autre bout de l'Europe. Mmh. Et en plus de ça, on était sur un colis éco-responsable, mais qui était fabriqué à partir de matières plastiques neuves. Donc j'avais vraiment du mal à associer l'image d'un produit écologique avec un emballage en plastique. Donc voilà, je suis parti un petit peu de ce constat avec toutes ces problématiques que j'ai pu lister et j'ai décidé du coup d'adapter cette solution, cette innovation au marché français en poussant le curseur des valeurs un petit peu plus loin au niveau de l'inclusion sociale, de la fabrication locale et l'utilisation de matières plastiques revalorisées ou upcyclées.
On va parler de tout ça. Et comment tu as fait le choix de ces bâches publicitaires? Comment tu as trouvé ton emballage?
Oui, alors, pour la petite histoire, au début de mon projet, voilà, j'avais découvert cette solution, je me posais pas mal de questions. Et c'est vrai que tout seul, je pense qu'on n'a pas forcément réponse à tout. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de créer une sorte de réunion brainstorming avec des amis à moi qui venaient de secteurs différents, du e-commerce, du packaging, de la communication, du marketing. Et on a commencé à soumettre des idées. Donc, par exemple, moi, au début, j'avais vu un reportage le week-end d'avant qui parlait d'une entreprise qui revalorisait des toiles de parachute. Mmh. Et je me suis dit, mais c'est peut-être dans cette direction qu'il faut aller proposer un emballage fabriqué avec un déchet qu'on peut trouver directement en France. Donc, on a commencé à rigoler un petit peu autour de ce concept pendant le brainstorming en se disant, oui, on pourrait peut-être appeler l'emballage pack à chute ou quelque chose comme ça. Donc, ça partait au final d'une blague. Et puis finalement, de fil en aiguille, il y a une personne dans cette petite réunion qui a dit, ben moi, j'ai vu passer des entreprises qui fabriquaient des sacs à main en bâche publicitaire. Donc, on s'est dit, ah ouais, ça peut être intéressant. Et en creusant, la bâche publicitaire, ben, c'est avéré être la matière idéale parce qu'elle est disponible en très, 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 très grande quantité en France. Ça représente des millions de mètres cubes de déchets chaque année. C'est une matière qui est en plus durable parce que généralement, ces bâches publicitaires, elles sont conçues pour résister aux conditions extérieures, mmh. au vent, à la pluie, aux UV. Donc, on est vraiment sur un matériau qui est très résistant et qui peut durer dans le temps, qui est disponible en grande quantité et qui, en plus de cela, pose des problématiques de recyclage aujourd'hui en France. C'est-à-dire que toutes ces bâches, si elles ne sont pas revalorisées, ben, elles vont être enfouies ou incinérées. Donc, il y avait une véritable urgence aussi à proposer une solution de réutilisation de cette matière. Et peut-être pour la première fois en France, on pouvait mettre en adéquation un projet de revalorisation qui nécessitait énormément de volume, donc le marché de l'emballage, avec une filière de déchets qui génère énormément d'emballage. Ce que je veux dire, c'est que par le passé, les seules pistes qu'on avait pour revaloriser les bâches, c'était de faire des portefeuilles, des sacs à main, des petits objets de maroquinerie. C'est des projets que je trouve très très bien, mais malheureusement, on ne sera pas en capacité d'absorber le volume de bâches publicitaires en fin de vie en fabriquant des portefeuilles. Avec EcoPack Solutions, pour la première fois, on met en adéquation un marché avec une filière de revalorisation cohérente en termes de volume.
Oui, carrément. Et elles viennent d'où ces bâches? Tu as un seul fournisseur ou il y en a plusieurs?
Non. Nous, on a décidé de créer notre propre filière de collecte. C'était quelque chose, un enjeu stratégique dès le départ. On ne souhaitait pas être dépendant de fournisseurs. Du coup, on a articulé notre filière de collecte dans un premier temps sur la région où EcoPack Solutions est implantée, c'est-à-dire l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a articulé cette filière autour de trois branches. Donc, la première branche, c'est le secteur de l'événementiel. Qui génère beaucoup de bâches au cours de ces événements, les salons professionnels, les conférences. Et donc aujourd'hui, par exemple, on a des accords avec GL Events pour la collecte de leur support publicitaire sur l'ensemble des sites d'exposition de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La deuxième piste, c'est les fabricants de bâches directement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les plus gros fabricants français sont situés en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous, on va collecter auprès d'eux les défauts de fabrication. Donc, c'est-à-dire que ces entreprises vont fabriquer des milliers, des millions de mètres carrés chaque année. Et de temps en temps, ils ont des défauts de fabrication qui seront voilà, un petit accroc dans la maille ou des bulles qui peuvent apparaître sur la bâche. Et ça rend ce produit non vendable. Donc finalement, nous, on va capter ce déchet directement auprès des fabricants. Et la troisième piste, c'est les imprimeurs. Donc, des entreprises qui vont acheter ces bâches, imprimées pour le compte de métropoles, de clubs sportifs ou autres, et ensuite qui vont assurer la désinstallation de leur matériel. Donc finalement, ils vont se retrouver avec des bâches en fin de vie qu'ils vont devoir gérer en termes de déchets. Donc nous, on contacte ces imprimeurs et on leur propose un partenariat win-win, c'est-à-dire que nous, on va capter leur matière gratuitement et eux, ils auront une source de revalorisation de leurs déchets plus durable et beaucoup plus intéressante économiquement pour eux aussi.
C'était une question que j'allais te poser, c'est que les bâches, finalement, tu les achètes?
Non, alors les bâches nous reviennent à un très faible coût. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on assume uniquement la partie transport.
D'accord.
Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et pour ce qui est de la revalorisation de bâches en dehors de l'Auvergne-Rhône-Alpes, là, le transport est assumé par le producteur.
D'accord, c'est quand même un choix qui n'est pas anodin de t'être installé. Tu es peut-être originaire de la région, mais en tout cas, de t'installer dans cette région historique de la production de colis et d'emballage.
Oui, c'est après donc Ecopack Solutions est domicilié en Haute-Loire. Donc c'est mon département d'origine. C'était aussi pour moi assez important de m'implanter dans ce département qui me tient à cœur. Et c'était aussi une volonté, voilà, de développer le territoire, d'apporter de l'emploi sur une région qui est parfois boudée par les grandes entreprises du fait de leur enclavement dans le Massif central.
Et comment ça passe la collecte ? Donc, par exemple, tu mentionnais tout à l'heure un des trois piliers qui était celui des événements. Oui. Donc, à la fin d'un événement, on te contacte à chaque fois pour organiser une collecte. Ou est-ce que tous les acteurs qui utilisent ces bâches publicitaires les gardent, les conservent, et il y a une collecte qui est faite de manière peut-être organisée suivant une base régulière pour peut-être pas se déplacer à chaque semaine ou à chaque fin d'événement ?
Oui, c'est ça. Nous, on essaie d'optimiser les transports au maximum. Donc, on va essayer vraiment de centraliser un volume important avant d'organiser une collecte. Donc, sur des événements qui sont très importants, qui vont générer énormément de bâches, on peut assurer une collecte par événement. Mais la plupart du temps, on va attendre 2, 3, 4 événements, stocker ce matériel en attendant, avant d'assurer un regroupement et une collecte à ce moment-là.
Ça paraît fou aujourd'hui de dire que tout ce matériel-là, finalement, il est jeté.
Oui, c'est vrai que c'est assez problématique, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle je me suis tourné vers cette matière, c'est que les bâches publicitaires, elles font partie de notre quotidien, on n'y fait plus vraiment attention, elles sont tout autour de nous, dans nos rues, nos gares, nos entreprises, mais finalement, on est sur un matériau qui est quasiment neuf. Ces bâches, elles vont être utilisées dans le secteur de l'événementiel, par exemple, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, mais globalement, on reste sur une matière qui est quasi neuve. Et c'est d'autant plus dommage de l'acheter directement, d'où l'idée de la revaloriser et de lui offrir une seconde vie.
Et en plus d'être assez contraignant pour tous ces fabricants de bâches de devoir revaloriser cette tonne de déchets, c'est des choses qui sont assez encombrantes.
Oui, c'est encombrant et ça a un coût aussi. Hein. C'est aussi l'idée du partenariat et c'est aussi là-dessus que j'appuie notre ambition de devenir la plus importante filière de collecte de bâches en France, voire en Europe, c'est qu'aujourd'hui, ces bâches ont un coût pour les entreprises, pour les fabricants. Donc nous, on essaie de proposer un partenariat gagnant-gagnant qui est de capter une matière première à très faible coût, ce qui nous permet de conserver une fabrication française dans notre modèle économique, et à la fois de proposer aux acteurs, aux producteurs de déchets, une solution durable, éco-responsable pour revaloriser leurs déchets et à moindre coût. Donc finalement, tout le monde s'y retrouve.
Clairement. Alors parle-nous maintenant de Boomerang, qui est donc la première solution d'Ecopack Solutions, qui donc permet de remplacer les emballages uniques dans le cadre du e-commerce, que ce soit des cartons ou des plastiques. Raconte-nous comment ça fonctionne.
Alors Boomerang, aujourd'hui, on a trois tailles qui sont développées. L'idée de ces trois tailles, justement, c'est de s'approcher au plus près des différentes tailles d'articles qui peuvent être proposées sur Internet. L'idée, c'est aussi de proposer un emballage adapté aux produits et non plus d'expédier des colis surdimensionnés pour recevoir une paire de chaussettes.
Oui.
Donc déjà, voilà, on a trois tailles d'emballage qui sont adaptées aux différentes tailles de produits. Ensuite, le concept de Boomerang, c'est plutôt que de vendre un carton à usage unique à un e-commerçant, nous, on propose un service de location. Donc, on va louer cet emballage à un e-commerçant qui pourra ensuite proposer directement sur son site Internet une alternative de livraison écologique, c'est-à-dire une option. Donc, au moment de votre commande, vous aurez le choix soit d'être livré de manière classique avec un colis jetable ou alors de souscrire à une option qui est généralement comprise entre 1 et 2 euros afin de poursuivre votre démarche environnementale jusqu'à la livraison. Une fois que le consommateur a choisi cette option, il pourra donc recevoir sa commande dans un de nos emballages. Et à la réception de son colis, le consommateur a simplement à replier le colis Boomerang en deux, retirer le bon d'expédition, donc Colissimo, Mondial Relais ou peu importe, ce qui va laisser apparaître une nouvelle étiquette, qui est notre étiquette retour. Cette étiquette retour, en fait, c'est comme un timbre à validité permanente. Donc, une fois que ce timbre est visible, le consommateur a simplement à descendre en bas de chez lui et déposer dans la boîte aux lettres du groupe La Poste, la plus proche de chez lui, son emballage vide. Pour cela, il n'a rien à payer, il n'a pas à se rendre en bureau de poste. On a notre étiquette qui est préaffranchie. Et donc, une fois en boîte aux lettres, le colis revient dans nos locaux en Auvergne pour être nettoyé et ensuite reloué à une nouvelle marque.
Il a un délai, le consommateur, pour rendre son colis ?
Non, il n'y a pas de délai qui est imposé.
D'accord.
Donc après, nous, justement, dans notre communication, on invite les consommateurs à être le plus réactifs possible, mais il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là, parce que nous, d'un point de vue économique, on va se voir prélever des frais postaux uniquement lorsque le colis sera déposé en boîte aux lettres. Donc d'accord. Finalement, voilà. Mais c'est quand même bien mieux s'il y a une certaine réactivité du consommateur, c'est-à-dire de renvoyer son emballage entre une ou deux semaines.
Bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe si le consommateur ne rend pas son colis ?
Alors ça, c'est sûr, c'est un cas de figure qui existe aujourd'hui. On est sur un modèle d'emballage qui est assez innovant. Je pense qu'il va falloir aussi du temps pour qu'il y ait une sorte d'évangélisation qui se mette en place en France autour du colis réutilisable, que les consommateurs commencent à être habitués d'avoir ce type d'emballage entre les mains. En tous les cas, aujourd'hui, si le consommateur ne renvoie pas son emballage, c'est quelque chose qui est prévu dans notre business model. Donc, on ne va pas apporter de surfacturation aux e-commerçants et on ne va pas chercher à rentrer en contact ou à harceler le consommateur de messages pour qu'il nous renvoie son emballage. On fonctionne vraiment sur un principe de confiance et on essaie d'accompagner le consommateur au mieux avec une communication très précise pour lui faire comprendre l'intérêt de renvoyer son emballage afin de garantir que cet emballage soit bel et bien réutilisé et qu'il ait un véritable impact.
Surtout que dans l'acte d'achat, c'est le consommateur qui va faire finalement ce choix. Tu parlais d'une option tout à l'heure. Oui. Donc concrètement, demain, je vais acheter des chaussettes, des marques de sous-vêtements sur le slip français, parce que je crois que c'est partie des partenaires que vous avez.
Oui.
Quand, au moment de choisir mon expédition, j'ai le choix de choisir entre un carton classique conventionnel et la solution boomerang.
C'est ça.
Et pourquoi laisser le choix au consommateur et pourquoi pas se dire que finalement, si vous proposez cette solution-là, bah, ça devrait être, on va dire, un choix, une option, enfin même pas une option en fait, juste ouais, dire, bah, en fait non, il y a une... Ouais, exactement, pourquoi finalement laisser le choix au consommateur ?
Parce que je pense qu'on ne peut pas innover dans un mode de consommation de manière trop drastique. Il y a une période de transition à apporter. Et cette option, en fait, aujourd'hui, elle a deux intérêts. Le premier, c'est que cette option, ça va servir de filtre au niveau des consommateurs. C'est-à-dire qu'un consommateur qui choisit l'option, ça veut dire qu'il a compris le principe de fonctionnement, qu'il est sensible à la démarche et que donc il est plus susceptible de retourner son emballage. Donc grâce à des fast tests, on s'est rendu compte qu'en proposant cet emballage sous forme d'option, mais les taux de retour étaient bien meilleurs, ce qui générait donc un impact environnemental bien meilleur en termes de CO2. Le deuxième intérêt, c'est aussi que le secteur de l'emballage, c'est gigantesque. L'année dernière, en France, uniquement pour le packaging e-commerce, c'était 1 milliard d'emballages. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée sur les volumes, nous, aujourd'hui, on est une petite start-up. On est en train de se lancer, donc c'est sûr qu'on a des volumes qui sont bien moindres. On n'a pas aujourd'hui une flotte d'1 milliard de colis boomerang. Donc, c'est sûr que, d'un point de vue économique, nos solutions sont encore aujourd'hui plus chères que des emballages à usage unique. Donc cette option, c'est aussi un moyen de faire participer le consommateur final dans le lancement de cette nouvelle démarche. Et à l'avenir, si ce type d'emballage s'installe plus durablement sur le marché, ça va nous permettre d'avoir des volumes de production beaucoup plus importants, d'apporter des économies d'échelle et donc d'avoir des prix d'emballage beaucoup plus compétitifs par rapport à des solutions jetables. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de faire grandir ce marché, d'avoir une production plus importante pour avoir des prix plus abordables, ce qui permettrait dans ce cas-là de proposer des emballages réutilisables au même coût et au même titre qu'un emballage jetable. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de transition où chaque acteur doit avoir une participation, aussi bien les fabricants d'emballages comme nous, les e-commerçants et les consommateurs.
Et donc, c'est en laissant le choix aux consommateurs que tu penses qu'ils sont davantage impliqués et qu'ils vont vraiment s'inscrire dans cette démarche plutôt que de leur imposer quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément choisi. Et en leur laissant le choix, tu as observé que le taux de retour était bien meilleur parce que du coup, ils ont vraiment l'envie d'aller jusqu'au bout de la démarche et de de faire en sorte que leur colis soit réutilisable.
C'est ça. C'est pas la solution miracle, hein, cette option. Hein. C'est-à-dire qu'en mettant une option, on n'atteint pas aujourd'hui des taux de retour de 100%. On est aussi dans une démarche d'améliorer l'expérience utilisateur de nos colis et proposer des leviers d'incitation pour justement augmenter ces taux de retour. Donc l'option est un premier facteur, mais il y a d'autres facteurs. On peut proposer des incitations financières. Par exemple, vous avez payé une option à 1 euro pour être livré avec ce type de colis. Pourquoi pas obtenir un bon d'achat chez vos marques préférées d'une valeur de 1, 2, 3, 4, 5 euros en retour si vous avez renvoyé votre emballage. Et ce principe-là, il est aussi intéressant pour les e-commerçants parce que certes, ils vont générer un bon d'achat, mais finalement, ça va apporter aussi un petit peu plus de trafic chez eux et soutenir des marques qui ont des valeurs fortes comme le Made in France ou l'Upcycling.
Aujourd'hui, c'est déjà un système qui existe, ça, le fait d'avoir des contreparties sur le principe de la remise du colis, sur le renvoi du colis.
Oui, ça a déjà été développé, justement. L'entreprise Repack, que je parlais au début du podcast, propose ce genre d'initiative, ce type d'initiative. Nous, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à des moyens d'incitation qui sont un petit peu différents, que je ne pourrais pas préciser aujourd'hui parce que c'est encore en cours de développement, mais on est vraiment dans cette démarche-là. L'idée, c'est de proposer le mode de renvoi le plus simple possible et le plus incitatif possible aux consommateurs pour qu'on ait des taux de retour optimaux et le meilleur impact carbone possible.
Mais c'est aussi au rôle du fabricant d'inciter au retour, parce que du coup, eux-mêmes, ils s'inscrivent dans cette démarche-là, puisque c'est finalement sur le site, sur le e-shop du commerçant qu'on a cette option-là. Donc finalement, c'est aussi à eux de promouvoir le message et c'est clairement dans leur intérêt.
Exactement, et on est aussi dans cette démarche-là avec les e-commerçants, c'est-à-dire que notre service de location, il inclut aussi l'accompagnement à la communication. Donc on est vraiment côte à côte avec les e-commerçants pour les soutenir dans leur démarche de communication sur ce nouveau service, pour que le service soit expliqué de la manière la plus claire possible sur leur site internet et que le consommateur puisse comprendre depuis le site internet du e-commerçant l'intérêt qu'il y a de renvoyer son emballage plutôt que de le réutiliser soi-même.
Top. Tu peux nous citer quelques marques partenaires avec qui vous travaillez ?
Oui, bien sûr. Donc, tout à l'heure, tu parlais du slip français. Mm-hmm. C'est vrai qu'on a obtenu cette marque l'été dernier. On a aussi des marques locales comme Allory Shop, qui est une marque lyonnaise, Maison Alpha, Atelier Soliac, Sowiride. Mais vous pouvez aller voir directement sur notre site internet colis-boomerang.fr et on a un onglet partenaire avec toutes nos marques qui sont présentes sur le site.
Ouais, c'est super. Je mettrai les notes de l'épisode sur le blog et comme ça on pourra effectivement retrouver toutes ces belles marques et ça sera peut-être l'occasion de découvrir aussi des super nouveaux projets. Donc ouais, super
carrément.
Intéressant. Tu parlais du coût tout à l'heure. Aujourd'hui, le coût d'un colis réutilisable boomerang pour une marque, il est plus cher qu'un colis traditionnel jetable ?
Alors ça, c'est une question compliquée parce que le secteur de l'emballage, c'est vraiment divers et varié. Ça dépend de quel type d'emballage tu parles.
D'accord.
Par exemple, il y a les pochettes à usage unique en plastique qu'on connaît tous, qui sont fabriquées à l'étranger. Là, on va être sur des coûts de produit, enfin des coûts très bas, c'est-à-dire autour de quelques centimes. Donc, c'est sûr que notre solution versus ces pochettes plastiques jetables, on est beaucoup plus cher. Par contre, au niveau du carton, aujourd'hui, il existe des cartons standards, tout simples, qu'on peut utiliser par exemple pour un déménagement, qui seront autour de 50 centimes, 80 centimes. Mais au niveau du secteur e-commerce, c'est vrai que l'emballage a une vraie importance en termes d'expérience utilisateur. Le colis qu'on reçoit quand on commande sur Internet, c'est la vitrine de l'entreprise. C'est vraiment le premier contact que le consommateur aura avec l'entreprise. Donc, les e-commerçants ont généralement tendance à se tourner vers des packaging en carton personnalisé qui permettent une ouverture simplifiée, qui offrent une expérience utilisateur assez intéressante à l'ouverture de son colis. Et ce type de carton personnalisé, Voilà, on est sur des prix qui sont autour de 1 euro, 1,50 euro. Et finalement, nous, aujourd'hui, notre solution, elle est proposée donc, pour notre petit format à 1,80 euro, pour notre format moyen à 2,30 euros et pour notre grand format à 3 euros. Donc, on est encore un petit peu plus cher que du carton e-commerce. Par contre, c'est aussi là l'intérêt de l'option. C'est-à-dire qu'en proposant une option à 1 euro, en demandant aux consommateurs d'avoir une petite participation dans cette démarche, mais finalement, un e-commerçant peut s'y retrouver économiquement par rapport à un carton personnalisé dédié au e-commerce.
Oui, donc quand tu parles de ces coûts-là, c'est bien donc le coût pour le consommateur final de souscrire à l'option collier réutilisable boomerang. Et donc ça, ce n'est pas le coût d'achat d'un fabricant. Et en l'occurrence, pourquoi laisser la participation au consommateur qui, du coup, bah, fait déjà un choix de produits éco-responsables, du coup, d'une livraison qui est beaucoup plus green. Et du coup, il se retrouve finalement presque un peu pénalisé à devoir payer un peu plus cher, alors que finalement, une expédition plus classique durerait moins cher. Donc, le choix de l'option, enfin, le consommateur doit être vraiment engagé dans une démarche très, très forte de développement durable pour devoir participer financièrement à cet effort-là.
C'est ça. Je n'utiliserai pas le terme pénalisé parce qu'on laisse le choix au consommateur. C'est vraiment l'objectif de cette option, c'est de proposer aux gens qui veulent aller vraiment jusqu'au bout de leur démarche, mais d'avoir la possibilité. Après, c'est vrai que dans un monde idéal, il faudrait que ce type d'emballage revienne au même prix qu'un emballage jetable. Mais comme je t'expliquais tout à l'heure, il va falloir un petit peu de temps, il va falloir que ce marché se développe, que les consommateurs se tournent de plus en plus vers cette solution pour faire augmenter la demande, ce qui nous permettra d'augmenter notre production, de faire diminuer nos coûts de production, et donc de pouvoir proposer des emballages beaucoup moins chers aux e-commerçants pour qu'ils puissent le proposer au même prix qu'un emballage jetable. Mais ça va nécessiter une petite période de transition, comme j'ai expliqué auparavant.
Oui, et puis de toute façon, il faut bien commencer par quelque chose. Donc l'idée, c'est d'engager cette démarche-là. Et plus, j'imagine, il y aura de marques partenaires, plus on va communiquer sur toutes ces solutions d'emballage et aussi de transparence concernant le nombre d'emballages qui sont jetés. Je crois qu'aujourd'hui, la durée de vie d'un colis avant d'être jeté est à peine de 3 jours. Plus on va éveiller les consciences concernant ce sujet-là, plus les consommateurs seront impliqués dans la démarche. Et comme tu le dis si bien, plus il y en aura, plus les coûts vont pouvoir baisser et ça sera profitable à tous. Ouais.
Exactement, je pense que c'est des personnes au début qui sont très sensibles à cette démarche, qui vont lancer le mouvement et j'espère que par la suite plus de consommateurs suivront afin de pouvoir proposer une solution qui s'adresse à tous.
Aujourd'hui, depuis la création de Boomerang, il y a un taux. Comment tu mesures l'impact environnemental? Donc c'est en mesurant le nombre de colis qui sont choisis et distribués. Est-ce que c'est le taux de retour des personnes qui rendent le colis boomerang, qui le renvoient? Comment tu mesures un peu tout ça?
Ouais, il y a beaucoup de paramètres, hein, qui rentrent en compte. Là, on est en train de mener une étude ACV, donc une analyse de cycle de vie de produit, qui nous permettra de déterminer le réel impact carbone de nos emballages. Aujourd'hui, on se base uniquement sur des analyses qui ont été faites, des analyses d'impact qui ont été faites sur l'entreprise finlandaise que je parlais au début du podcast. Ce qui est intéressant avec cette analyse, c'est qu'elle a du recul, contrairement à notre activité. Comme je le disais, cette entreprise finlandaise, ça fait 10 ans qu'elle fait ce type d'emballage. Donc, ils ont vraiment des données chiffrées et précises pour donner des statistiques pertinentes sur l'impact de leur colis. Et aujourd'hui, cette analyse d'impact précise que l'utilisation de colis réutilisables est entre 75% à 100% moins génératrice d'émissions de CO2. Par contre, cette analyse de notre concurrent a été faite sur un colis qui est fabriqué en Chine, sur un colis qui a été fabriqué à partir de matières plastiques neuves et sur des colis qui reviennent en Estonie pour être nettoyés. Donc nous, aujourd'hui, on n'a pas ces statistiques à fournir, c'est en cours d'établissement, mais on peut simplement garantir que notre impact sera bien meilleur du fait de notre fabrication locale, de l'utilisation d'une matière qui est collectée localement et qui plus est sauvée de la poubelle, et sur un retour pour le nettoyage qui est opéré en France, pour une clientèle française. Donc, nous, on est en train de mener cette étude carbone. Donc, pour répondre plus précisément à ta question, il y a plusieurs paramètres qui vont être observés, c'est-à-dire le taux de retour, c'est-à-dire l'origine de la matière première, l'origine de la fabrication. Et il faut aussi prendre en compte ce côté upcycling, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ces bâches, si on ne les revalorise pas, elles vont elles-mêmes générer du CO2 en cas d'incinération. Donc, on vient générer une économie de CO2 du fait de revaloriser cette matière.
Oui, tout à fait. Et alors, l'impact environnemental, il est très, très fort. Mais Boomerang Solution, la solution Boomerang, c'est aussi un impact social, parce que je crois que vous favorisez l'insertion et notamment l'emploi féminin en zone rurale. C'est un engagement qui est très, très fort également.
Comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai décidé de créer l'entreprise dans mon département d'origine, la Haute-Loire. Donc aujourd'hui, on travaille pour la fabrication de nos colis avec des entreprises adaptées. Qui sont situés en milieu ruraux, donc c'est-à-dire qu'on travaille avec des entreprises qui sont implantées dans des villages de moins de 2000 habitants. Donc c'est d'autant plus important de créer de l'emploi sur ces zones-là qui connaissent des taux de chômage un petit peu plus importants qu'en ville. Et on a une implication au niveau de l'emploi féminin, parce qu'aujourd'hui, on travaille notamment sur des opérations de couture. Et malheureusement, aujourd'hui, ce secteur connaît un déséquilibre entre l'emploi masculin et féminin. Et dans les faits, beaucoup plus de femmes travaillent dans ce type d'emploi. Donc, l'entreprise adaptée avec qui on travaille, il y a une vingtaine de couturières, une chef d'atelier qui est aussi une femme. Donc, finalement, on travaille exclusivement avec des femmes pour la fabrication de nos colis.
Il y a un seul atelier pour la fabrication des colis ?
Aujourd'hui, on a un atelier et on cherche à trouver de nouveaux ateliers pour augmenter notre capacité de production, tout en restant en Auvergne-Rhône-Alpes.
D'accord. Et tu t'es basé sur un atelier qui avait déjà développé ce type de compétences ou tu es venu insuffler, on va dire, des nouvelles compétences parce qu'il y avait aussi un besoin de formation ?
C'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé chez mon fabricant, mais voilà, je démarrais de zéro. Donc, j'avais simplement cette idée en tête. J'avais pu récupérer 2-3 bâches à droite, à gauche, fait mes premiers prototypes maison. Et je suis arrivé un petit peu au culot là-bas en me présentant au directeur, en disant que voilà, j'avais ce projet-là, que c'était un projet qui avait quand même un fort potentiel et que je serais intéressé que notre fournisseur nous accompagne dans cette démarche. Et j'ai été très bien accueilli. C'est aussi l'intérêt de travailler avec des entreprises adaptées ou des ESAT. À mon avis, c'est des entreprises qui sont beaucoup plus souples et qui sont aussi preneuses d'innovation. Et donc, j'ai été très bien accueilli. Et là où il y a eu un petit besoin d'adaptation et de formation, c'était sur cette nouvelle matière. Parce que les compétences en interne, ils les avaient en termes de découpe, en termes d'assemblage. Mais là, on allait travailler avec une matière qui n'avait jamais été utilisée auparavant, qui est plus épaisse, qui est plus rigide que des tissus conventionnels. Donc, il a fallu aussi qu'on adapte nos conceptions, nos process de fabrication pour que le travail soit le plus agréable possible pour les opérateurs.
Tout à fait. Les bâches, elles sont donc très résistantes, elles sont imperméables aussi. Oui. Elles peuvent être utilisées jusqu'à une centaine de fois, je crois. Et quand elles arrivent en fin de vie, enfin, c'est peut-être pas encore le cas du coup, mais quand il pourra arriver qu'elles puissent être abîmées, qu'est-ce qui deviendra ?
Exactement. Donc, comme tu viens de le préciser, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas le recul nécessaire pour apporter une réponse précise à la fin de vie de nos colis, parce que notre colis est prévu pour résister plusieurs années. Donc, il va falloir déjà qu'on atteigne ces plusieurs années avant d'avoir un stock de colis à recycler. Et aujourd'hui, par contre, on commence dès à présent à anticiper et à réfléchir à la fin de vie de nos colis, bien évidemment. Et pour moi, aujourd'hui, il y a deux pistes qui sont intéressantes. Et qui ne sont pas forcément dissociables. La première, c'est le recyclage. Comme je l'expliquais plus tôt, les bâches publicitaires, il y a un véritable enjeu environnemental de les revaloriser parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas les recycler. Le problème de ces bâches, c'est que c'est un matériau qui est bicomposé, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement du plastique. À l'intérieur, on va avoir un maillage textile, une sorte de filet textile, et par-dessus, on va venir couvrir avec une pellicule de plastique. C'est ça qui pose problème aujourd'hui au niveau du recyclage, c'est qu'on a du mal à séparer ces deux matériaux. Par contre, des entreprises, des startups travaillent dans le domaine, notamment une entreprise qui s'appelle Polyloop. Polyloop est en train de développer un process pour le recyclage de ce matériau. Donc nous, on se rapproche de Polyloop pour voir justement, pour effectuer des tests et voir si nos emballages en fin de vie pourraient être recyclés par ce nouveau process. La commercialisation de Polyloop est prévue pour le début d'année prochaine. Donc voilà, on avance sur cette piste de recyclage avec des acteurs français. Et la deuxième piste, c'est de rester dans l'upcycling. Finalement, on collecte des bâches pour les upcycler en colis. Pourquoi on ne pourrait pas utiliser nos colis et les upcycler pour en faire, leur offrir une troisième vie finalement?
Ouais.
Et aujourd'hui, les pistes qui sont intéressantes à ce niveau-là, c'est de broyer le matériau pour en faire... ce matériau, il a aussi des propriétés d'absorption, de choc et de compression qui sont assez intéressantes et qui pourraient être appliquées dans des domaines, par exemple, pour du rembourrage. Du rembourrage d'ameublement ou des choses comme ça. La deuxième piste, c'est aussi au niveau de l'isolation. Ces matériaux ont des propriétés isolantes et en plus de ça, la plupart des bâches sont à l'origine traitées pour retarder les incendies. C'est-à-dire que voilà, sur un événement, un salon professionnel, un organisateur d'événements ne peut pas se permettre qu'en cas d'incendie, les bâches propagent l'incendie partout dans le bâtiment. Donc ces bâches, elles ont aussi des propriétés de retardant d'incendie. Donc finalement, c'est aussi des propriétés qui pourraient être ultra intéressantes dans le secteur de l'isolation. En plus d'apporter une isolation thermique, ça pourrait être un matériau qui permettrait de retarder le feu en cas d'incendie.
Oui, tout à fait. Même dans les bâtiments, dans les constructions, effectivement, il y a des matériaux qui doivent répondre à certaines normes. Et donc, effectivement, ça pourrait être aussi une option. On peut rappeler aussi que l'upcycling, donc, qui consiste à faire du neuf avec du vieux. Donc aujourd'hui, ce sont des bâches publicitaires. Et donc, il y a déjà peut-être donc, un troisième cycle de vie qui pourrait être offerte à ces bâches publicitaires. En revanche, les colis boomerang qui pourraient être conçus avec d'autres matériaux, avec, je sais pas moi, des doudounes, avec autre chose.
En théorie, oui, on pourrait, tout à l'heure je te parlais de toile de parachute lors de notre premier brainstorming, on pourrait imaginer un petit peu des colis fabriqués avec toutes sortes de matières. Le problème, c'est qu'il faut avoir une matière qui est quand même standardisée, qui est disponible en très grande quantité, qui permet, qui a une possibilité de collecte simplifiée. Et aujourd'hui, on a retrouvé toutes ces caractéristiques auprès des bâches publicitaires. Donc, c'est vrai que si on souhaitait se lancer, par exemple, on va fabriquer des colis en matière de doudoune, comme tu le proposais, il faudrait vraiment imaginer un nouveau process. Donc, pour répondre, oui, c'est faisable, mais ça nécessite énormément de ressources et qui ont déjà été développées sur la bâche publicitaire aujourd'hui.
Oui, puis comme tu disais, c'est déjà un marché qui est énorme. L'idée, c'est aussi de mesurer, de maîtriser l'impact carbone. Donc, effectivement, en allant sur des points de collecte qui sont réguliers, fixes, avec des quantités suffisantes, ça permet aussi de limiter les déplacements et toutes les collectes qui sont quand même générateurs de carbone. Donc, ce serait quand même plus efficient que d'aller récolter à droite à gauche toutes les matières qu'on peut récolter.
Mais ce qui est intéressant de noter, en fait, c'est aussi en ayant créé cette filière d'approvisionnement, cette filière de collecte, on s'est rapproché d'acteurs qui génèrent tout type de déchets. Donc aujourd'hui, nous, on capte leurs bâches publicitaires, mais on a aussi des pistes sur de nouvelles matières qui pourraient être utilisées non pas pour la fabrication directe des colis, mais peut-être pour du matériau de rembourrage, du matériau de calage, qui aussi aujourd'hui pose des problèmes environnementaux dans le secteur du packaging.
Très intéressant. Et alors, quels sont les autres projets d'EcoPack Solutions? Parce qu'on mentionnait tout à l'heure que Boomerang, c'en est une, c'est la première. Quels sont les autres projets qui sont en cours?
Effectivement, donc l'ambition d'EcoPack Solutions, comme son nom l'indique, c'est d'être un fournisseur d'emballage éco-responsable, un emballage avec un grand E, et de proposer donc plusieurs solutions. Donc nous, aujourd'hui, on s'est orienté vers le colis e-commerce souple, c'est-à-dire que nos colis boomerang peuvent expédier des produits qui sont non sensibles au choc, comme le textile par exemple, mais l'ambition c'est aussi d'apporter des solutions de packaging sur tout type d'expédition, donc, c'est-à-dire aussi des produits qui peuvent avoir des problématiques de choc, je pense par exemple au secteur de la chaussure, à la cosmétique, à la parfumerie, au secteur de l'électronique reconditionnée. Nous, on souhaiterait aussi apporter des solutions qui vont dans cette direction, proposer un nouveau type d'emballage qui pourrait permettre d'expédier des produits sensibles au choc. On est aussi en relation avec plusieurs agglomérations sur des projets spécifiques qui nous ont contactés, par exemple, pour développer des sacs de collecte, des sacs de tri qui pourraient être proposés aux habitants de la ville ou de la métropole, mais qui pourraient être fabriqués en France et fabriqués à partir de bâches publicitaires, plutôt que de se tourner vers un sac cabas qui est fabriqué à l'autre bout du monde et qui est fabriqué à partir de matières plastiques neuves. Donc on a ce type de projet aujourd'hui dans les tuyaux. Il y en a bien d'autres qui sont en cours aussi, mais qui sont encore un petit peu trop early, enfin, pour en parler aujourd'hui.
Et alors, et pourquoi pas le B2C, parce qu'il y a aussi tout un marché de seconde main avec des applications type Vinted ou Le Bon Coin. Ça pourrait être un marché qui est envisagé ?
Effectivement, tu fais bien.
C'était un peu tôt.
Non. Tu fais bien de m'en parler parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très important. Aujourd'hui, Vinted a pris une place en France qui est très importante et qui génère donc par conséquent énormément de déchets. Et on sent aussi qu'il y a une réelle demande de la part des consommateurs d'avoir des colis qui pourraient être en libre circulation, qui pourraient passer de consommateur en consommateur. Donc effectivement, c'est une piste de développement chez Ecopack. Par contre, on se retrouve face à il faut imaginer un nouveau mode logistique, un nouveau mode d'emballage. On ne pourra pas faire un copier-coller de notre colis boomerang et l'appliquer à une clientèle C2C. Donc, ça va nécessiter des ressources et du développement, mais en tous les cas, ça fait partie de nos ambitions.
Ouais, sachant qu'aujourd'hui, ce qui est envisageable, ce qui n'est pas forcément la piste la plus favorable, mais ce qui est quand même envisageable, c'est que si demain, moi, j'achète sur un e-shop de l'un de vos partenaires, je reçois un colis boomerang, c'est vrai que demain, plutôt que de le rendre dans la boîte aux lettres, je peux aussi l'utiliser pour envoyer un colis Vinted. Ça peut être aussi une option, quoi.
Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous, on n'est vraiment pas dans... On a développé ce modèle-là sur la confiance. Donc, on ne va pas être dans la pénalisation du consommateur. Ouais. On ne va pas chercher à le contacter, à le harceler pour qu'il renvoie son emballage. Donc, certes, des consommateurs pourraient réutiliser le colis boomerang pour une expédition Vinted, par exemple. Par contre, moi, je tiendrais à alerter ces consommateurs, peut-être les auditeurs qui nous écoutent, sur cette pratique, parce que c'est vrai que de réutiliser soi-même son emballage boomerang pour son expédition Vinted, c'est très bien. On va éviter un packaging. Nous, d'un point de vue financier, ça ne va pas nous pénaliser parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, tant que l'emballage n'est pas mis en boîte aux lettres, on ne va pas être prélevé. Mmh. Et donc, on peut imaginer finalement qu'un consommateur envoie sa commande Vinted et que le destinataire, lui, suive la démarche et dépose ensuite son colis. Par contre, en ayant recours à ce type d'expédition particulier à particulier avec nos colis, on augmente grandement le risque de non-retour. Parce que le destinataire ne va pas être informé sur qu'est-ce que c'est le colis boomerang, le principe d'utilisation. Il sera beaucoup moins informé qu'une personne qui a commandé sur un site e-commerçant, qui aura vu le descriptif de l'emballage, qui aura vu un article sur le site du e-commerçant qui explique cette démarche de réutilisation interne. Donc finalement, on perd le message et le destinataire du colis Vinted n'aura peut-être pas compris ce message, ne sera peut-être pas sensible à ce message et donc peut-être qu'il va simplement le jeter à la poubelle. Donc finalement, un consommateur qui veut faire cette démarche pour être dans une démarche environnementale, il faut comprendre qu'il y a un vrai risque derrière de non-retour de l'emballage et donc de finalement casser la chaîne qui est primordial pour proposer le meilleur impact possible sur le colis réutilisable.
Oui, il ne faut du coup pas du tout dénaturer le principe même de boomerang, donc de réutiliser. Il faut aussi que ce colis reparte dans la chaîne. Et donc, c'est important. Donc, rappelons que le colis boomerang doit être retourné à la fin de son expédition première. Quoi.
On n'est pas là pour pénaliser, mais c'est vraiment important pour que les consommateurs comprennent qu'en déposant son colis dans une boîte aux lettres, c'est le moyen sûr à 100% et garanti que le colis sera bien et bien réutilisé à l'avenir.
Ok, top, super.
Et pour ceux qui sont impatients sur Vinted...
Ça va venir.
Ça va venir. C'est dans les tuyaux et on fait tout ce qui est possible pour proposer une solution qui sera vraiment dédiée au C2C.
Bon, super. En tout cas, je vois qu'il y a plein de projets chez Ecopack Solutions. Quelle est ta vision, toi, de l'entreprise? Jusqu'où t'aimerais l'emmener?
Alors moi, la vision de l'entreprise, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'ambition d'Ecopack, c'est d'être une des références en France ou en Europe sur l'emballage éco-responsable. L'emballage au sens large, Aujourd'hui, on est sur le e-commerce, mais il y a plein de problématiques qui sont liées aujourd'hui dans notre société autour de l'emballage. Donc, c'est vraiment la première ambition, c'est d'être une vraie référence dans le secteur de l'emballage éco-responsable. La deuxième ambition, c'est au niveau de notre filière de collecte. Moi, je souhaiterais vraiment apporter une solution qui a de l'impact sur les déchets bâches publicitaires. Et donc, notre ambition, c'est de devenir la filière la plus importante de collecte de bâches publicitaires en Europe dans les années à venir.
Ouais, c'est une très belle ambition. Et quelle est ta vision à toi, plus personnelle, d'un monde meilleur? Si tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait?
Très bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Moi, ma vision des choses, ce n'est pas forcément de revenir en arrière, de bannir tout type de technologie et de bannir certains acquis qu'on a pu faire au cours du siècle dernier. Par contre, je pense qu'on a un vrai débat sociétal à avoir entre innovation et progrès. Pour moi, chaque innovation n'est pas forcément un progrès. Donc, on peut aussi se poser la question sur le développement de nouvelles technologies, de nouveaux produits qui semblent nous apporter du confort, du gain de temps, mais est-ce que c'est un véritable progrès pour l'humanité? Donc déjà, pour moi, il y aurait une distinction à faire entre innovation et progrès. Et ensuite, je pense que il faut qu'on reste... On doit consommer, on doit se nourrir, on doit se loger, on doit avoir de l'énergie, mais c'est dans la manière dont on consomme aujourd'hui qu'il y a des vrais progrès à faire. Rentrer dans un modèle où on consomme peut-être moins, mais de manière plus durable, que ça soit sur l'habillement, la maison, le textile, l'alimentation. Je pense qu'on peut avoir des modes de consommation qui nous permettent de consommer peut-être moins, mais mieux. C'est un petit peu bateau ce que je dis, mais je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller et que chaque acteur apporte son petit élément de réponse qui nous permettra d'aller dans les décennies à venir vers un monde un petit peu plus lent et un petit peu moins fou en termes de consommation.
Ouais, l'image de la légende du colibri de Pierre Rabhi qui dit que finalement chacun a sa part à faire, quoi.
Et donc c'est avec EcoPack, c'est un petit peu ce que j'essaie d'apporter. Je ne vais pas révolutionner le monde, mais j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice sur un sujet qui est la gestion des déchets.
Oui, et en tout cas, tu y contribues grandement. Tu parlais de mode de consommation tout à l'heure. Quels sont à toi tes gestes green du quotidien?
Alors, voilà, je pense que je suis quelqu'un de normal de notre génération. Voilà, je suis né en 93, j'ai 28 ans. Depuis que je suis petit, j'ai été sensibilisé autour du recyclage, contrairement à mes grandes sœurs ou à mes parents. Donc voilà, moi j'ai... Je suis très tourné dans le recyclage, j'essaie de faire de mon mieux à ce niveau-là. J'essaie aussi de prendre moins l'avion. J'aime bien aussi faire mes propres produits ménagers, mon dentifrice, déodorant, ce genre de choses. Ça coûte moins cher, c'est tout aussi efficace, et puis c'est un côté sympa, ça fait une petite activité le week-end de temps en temps. Sinon aussi, voilà, dans l'actualité, on approche de Noël. Moi j'ai une famille assez nombreuse, on a beaucoup de petits cousins, neveux, nièces, donc c'est vrai qu'il y a quelques années on faisait énormément de cadeaux, et là depuis peu, en ayant des discussions avec ma famille, on a changé un petit peu la donne, c'est-à-dire que c'est un petit peu ce que je présentais avant sur le mode de consommation, c'est qu'aujourd'hui on s'est mis d'accord que finalement au lieu de faire 10 cadeaux chacun, d'une valeur de 10 euros, 20 euros pour finalement offrir des choses qui ne sont pas très utiles, on préfère faire un tirage au sort et finalement on va offrir un cadeau à un petit, un cadeau à un grand, et bien sûr au niveau de l'emballage, moi j'incite mes neveux, mes sœurs à utiliser nos propres colis boomerang pour les mettre sous le sapin. L'avantage en plus, c'est que le fondateur de l'entreprise est là, donc il n'y aura pas besoin de le mettre en boîte aux lettres.
Mais voilà. Tu récoltes en fin de
voilà,
fête,
donc
quoi.
moins de cadeaux, et puis des cadeaux peut-être qui font plus plaisir, parce qu'on pourra
plus utile, parfois,
voilà, on
ouais.
pourra louer un budget un peu plus important et supprimer ce papier cadeau. Allez, on peut laisser un petit papier cadeau quand même pour les derniers, les tout petits qui adorent déchirer ça et qui jouent avec. J'ai un neveu qui vient de naître, donc on va mettre au moins un papier cadeau qui sera peut-être fait à partir de journal pour qu'il ait le plaisir de déchirer son paquet. Mais voilà, en tous les cas, au sein de la famille, on essaie d'être plus responsable au niveau de cette fête.
C'est vrai qu'il y a un gros sujet sur les cadeaux de Noël et les emballages qui durent à peu près, je pense, 5 minutes, quoi. Donc, ouais, tout à fait. Et quelles sont tes sources, à toi, d'inspiration ?
Oula !
Sur ces sujets-là.
Mes sources d'inspiration, donc moi, je ne suis pas un grand lecteur, je ne lis pas énormément de livres sur le développement personnel, sur... Je pense que mon inspiration, elle s'est faite tout d'abord par mon environnement. Depuis que je suis petit, j'ai grandi dans un petit village qui a une nature merveilleuse, des forêts, des rivières, des gorges... l'habitude d'aller aux champignons chaque année. Enfin voilà, depuis que je suis petit, j'ai eu un vrai contact avec cet environnement que je trouve merveilleux. Donc, en grandissant, notre génération a vu apparaître toutes les problématiques qu'on peut connaître aujourd'hui. Et donc, moi, ça me révoltait. Donc, je pense que voilà, la première source d'inspiration, ça a été ça, mon environnement. Ensuite, ça a été aussi ma famille. C'est vrai que mon père vient d'une famille paysanne. Mon grand-père était agriculteur et du coup, mon père a gardé certaines valeurs paysannes qui sont finalement de rien jeter. Y a un bout de ficelle qui traîne ici, on va le mettre dans le garage, ça servira plus tard. Y a vraiment ce principe de logique paysanne que finalement, c'est stupide de jeter quelque chose parce qu'on pourrait s'en servir pour autre chose. C'est du bon sens. Et aujourd'hui, c'est aussi des valeurs que je retrouve dans Ecopack et dans Boomerang. Finalement, c'était du bon sens de se dire on a une bâche plastique qui est étanche, qui est neuve, qui pourrait faire autre chose. Autant en faire un colis qui va supprimer des déchets. Pour moi, voilà, je ne parlerai pas d'innovation, de Startup Nation ou quoi que ce soit. Pour moi, ça se rapproche vraiment du bon sens paysan. Donc ça a été des sources d'inspiration pour moi. Et après, pour citer une personne qui est inspirante, une célébrité, si on peut dire, j'aime beaucoup Mike Horn. C'est vrai que j'ai suivi énormément ses reportages, toutes les aventures qu'il a pu faire à travers le monde. Et je trouve que c'est une très belle personne qui a des valeurs humaines géniales et qui apporte énormément aussi aujourd'hui dans la sensibilisation autour de l'écologie, à travers ses voyages et les événements qu'il peut mettre en place.
Bon, super, merci, merci pour ce partage.
Je t'en prie.
Alors, je crois qu'il est temps qu'on passe au quiz. L'idée du quiz, c'est que je te donne une série de questions avec un choix A ou un choix B en guise de réponse et que tu puisses répondre le plus spontanément possible par la réponse A ou par la réponse B. Et tu verras que tu as déjà donné quelques indications tout au fil de l'épisode. Donc, voilà, la surprise sera peut-être un peu moins grande parce qu'il y a quand même quelques pistes qu'on a déjà un peu explorées. Est-ce que tu es prêt ?
Allez. Il y a une note à la fin ? Comment ça se passe ?
Non, tu pourras la donner toi si tu veux en fonction de la nature des questions. Mais non, il n'y a pas de notes.
Ça marche.
Et pas de jugement surtout dans aucune réponse. Pour te rendre au travail, plutôt voiture ou plutôt vélo ?
Métro.
La réponse c'est donc. Pour te déplacer, plutôt Air France ou Blablacar ?
Blablacar. Mais j'apporterai quand même un complément sur cette question. C'est-à-dire, pour moi, cette question, elle est très large.
Ça dépend où ? Ouais.
Voilà, ça dépend où et ça dépend de la manière de le faire. Je pense que l'avion n'est pas non plus à bannir. Il y a une vraie réflexion à avoir autour de l'avion parce que je pense qu'on a été dans une boulimie, une surconsommation de l'avion depuis plusieurs décennies. Mais c'est quand même un moyen qui permet de connecter des continents. C'est très important. C'est plutôt, même au niveau des politiques internationales qui sont menées autour de l'avion, les subventions qui sont allouées à ce secteur-là qui permettent d'avoir des prix, mais qui sont dérisoires. Aujourd'hui, ça coûte presque plus cher d'aller au restaurant que de se faire un Lyon-Amsterdam. Pour moi, le problème, il est là. C'est l'attractivité, les prix qui sont proposés sur ce secteur qui poussent les consommateurs à être dans une surconsommation. Si on avait des tarifs qui étaient plus en adéquation avec la pollution que ça génère, certes, ça serait plus cher. Donc, c'est sûr que ça fera plaisir à personne, les prix vont augmenter, mais ça nous poussera aussi à se dire, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller en avion ? Et aussi au niveau de la récurrence, tu vois, par exemple, faire un Lyon-Dubaï pour un week-end, moi, je trouve ça fou. Par contre, partir faire un road trip pendant 2 ans au Canada, OK, tu auras traversé un océan, mais tu vas optimiser ton impact carbone sur une longue période. Donc, il y a aussi ces enjeux-là à prendre en compte. Donc, je suis pas dans un mode de bannir l'avion, mais vraiment, il y a énormément de travail à faire dans ce secteur pour le rendre beaucoup plus cohérent, parce qu'aujourd'hui, c'est fou. Mais sur des trajets courte distance, voire en Europe, je privilégie bien évidemment Blablacar et j'espère que les politiques vont aussi appuyer fortement sur la subvention au niveau des trains. Parce que je pense qu'on peut vraiment connecter notre continent avec des trains efficaces et qui permettraient d'éviter la solution avion.
Ouais, tout à fait. Et c'est marrant ce que tu dis parce que ça fait penser aussi à l'univers de l'industrie textile où au final tu peux acheter un t-shirt qui a 5 euros mais en fait qui pollue énormément. Et en fait, effectivement, en proposant des prix aussi bas, c'est vrai qu'on n'incite pas les consommateurs à se poser les bonnes questions ou à faire des choix qui sont les plus raisonnés.
Donc, c'est ça, mais il ne faut pas forcément bannir le t-shirt. Je pense qu'il ne faut pas être aussi terre à terre, drastique. Il y a énormément de boulot à faire, mais il faut changer des modes de consommation. Mais pour moi, l'avion a aussi amené énormément de choses à l'humanité au niveau de la communication entre continents, le décloisonnement de certaines parties du monde. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas tout à bannir là-dedans, mais pour répondre de manière courte à ta question, Blablacar.
Très bien. Allez, on continue sur le quiz. Pour tes cadeaux de Noël, plutôt Amazon ou Emmaüs ?
Emmaüs.
Pour dormir, est-ce que tu lis un bon bouquin ou est-ce que tu es plutôt Netflix ?
Je suis plutôt Netflix, pour être honnête.
Dans ton frigo, si tu n'as plus rien, tu vas plutôt te retourner vers un McDo ou un Too Good To Go ?
Too Good To Go.
Ok. Et le lundi...
J'évite d'avoir mon frigo vide.
Ouais, c'est comme ça, c'est plus simple. Et le lundi, t'es plutôt steak frites ou veggie Monday ?
Plutôt steak frites.
Eh ben, écoute, merci beaucoup pour la spontanéité de tes réponses et ton éclairage sur tous ces sujets environnementaux. Bravo aussi pour ta belle solution Boomerang et en espérant voir plein d'autres fleurir parce que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire et j'ai l'impression que ce n'est que le début. Donc, merci en tout cas pour cet épisode et la confiance que tu as accordée à ce podcast.
Ben, je t'en prie, c'est normal et je te remercie à mon tour pour... cette belle visibilité et cette proposition de mettre un petit peu en lumière ces nouveaux types d'emballages.
Canon, merci beaucoup Clément. Je te souhaite une belle journée. À bientôt.
Bonne journée à toi aussi. Au revoir.
Ciao.
Votre épisode communautaire est maintenant terminé. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à noter ce podcast avec une note 5 étoiles ou un gentil commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté. Partagez-le à au moins 2 personnes autour de vous et inscrivez-vous à la newsletter, je vous enverrai le prochain épisode par email. Vous pouvez vous rendre sur le blog www.communautaire-to20.com pour retrouver les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.